have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de votre magazine L'Amérique et vous. Depuis les années 60 ou 70, des centaines de milliers d'Africains ont choisi les États-Unis comme patrie. L'immigration africaine vers l'Amérique s'est même intensifiée ces dernières décennies. Mais ce désir de vivre le rêve américain ne signifie pas toujours, ne signifie pas en tout cas l'abandon de ses racines africaines pour cette communauté qui est estimée aujourd'hui à plus de 2 millions de personnes selon l'Institut de recherche Pew. Cependant, la nécessité de préserver sa culture et celle d'une intégration réussie pour soi-même et pour celle de sa famille peut quand même pousser à des choix souvent difficiles. Comment réussir l'équilibre entre préserver sa culture et bien s'intégrer aux États-Unis? C'est le thème que nous allons aborder avec nos invités, un panel 100% voix de l'Amérique, n'est-ce pas? Avec moi, Idriss Fall, également Kadiatou Traoré. Nous aurons Lionel Gaïma et Erzuma Compaoré également qui vont nous rejoindre. Alors bonsoir à tous.
Bonsoir, bonsoir. Abdou.
Bonsoir.
Oui, je démarre avec vous, Idriss. Vous êtes ici depuis au moins 25 ans, n'est-ce pas? Et avant cela, vous avez aussi vécu en France. Mais au Sénégal, vous avez quand même reçu une éducation conservatrice. Je pense qu'on peut le dire. Même si vous avez aussi fait l'école française à Rufus, qu'une ville à l'époque aussi très, très ouverte.
Oui.
Comment tout cela a joué dans votre intégration
mais c'est,
ici?
C'est très compliqué, Abdourahmane. C'est très, très compliqué parce que... J'ai une femme qui est française, du fait que j'avais vécu en France. Elle est venue me rejoindre ici aux États-Unis, et on a deux enfants. Le premier problème, c'est que on a discuté avant, on s'est dit, bon, elle ne parle pas Wolof. Moi, je ne parlerai jamais l'anglais comme les Américains. Donc, on a décidé à l'intérieur de la maison que, écoute, on va faire plus simple, on va parler français aux enfants. Parce qu'ils vont forcément apprendre l'anglais dans l'environnement américain. Et donc, à la maison, mes enfants, on le parle en français, on ne le répond en français. Et quelqu'un me dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé Wolof? Je lui dis, mais est-ce que tu aimerais dans un couple que l'un parle une langue à ses enfants que l'autre ne comprend pas? Ça fait un sérieux problème. Donc, on a opté à la maison de sacrifier le Wolof.
C'est un choix que la famille va faire.
Et que donc c'est ça qui s'est fait. Mes enfants, quand ils vont au Sénégal, ils parlent français avec leurs cousins et demi-frères et autres. Et ma mère, elle est contente de les voir. Quoi. Donc, mais ça ne règle pas la question culturelle.
Absolument. Et justement, je vais vous poser encore cette question. L'ancien président sénégalais Senghor parlait d'enracinement et d'ouverture. Il pensait aux Africains qui vivaient sur le continent, mais... C'est encore plus vrai pour les Africains qui vivent en Occident, non?
Oui, mais c'est ce que Doyen Idriss Sadia devrait être là. Parce que à l'époque, on discutait beaucoup de ça. Je lui dis, il y a une chose que je ne pourrai jamais, jamais perdre, c'est ma sénégalité, c'est ma culture sénégalaise. Si je descends à Dakar, ou même quand je marche dans les rues de Washington et de New York, de loin, les gens savent et me reconnaissent comme étant un Sénégalais. Ça, je ne pourrai jamais le perdre. Mais mes enfants, ils ne sont pas nés au Sénégal. Ils sont nés ici aux États-Unis.
Absolument.
Ils sont américains. Et que le rapport que moi j'ai avec le Sénégal, eux, ils ne l'auront jamais. Ils l'ont par procuration. Par exemple, la Tabaski, j'achète du mouton pour qu'ils apprennent, en fait, que c'est une fête importante pour nous. Le Ramadan, moi, j'ai fait mon jeûne. eux, ils savent que papa, il jeûne. Moi, je ne les force pas à jeûner parce que, bon, voilà, je sais que certains musulmans seront choqués même d'apprendre que je ne force pas mes enfants à jeûner parce que c'est pas dans leur tradition, c'est pas dans leur culture et je ne force pas. C'est les États-Unis ici. Mmh. Donc, ouais. On n'a pas le droit de lever la main sur les enfants alors qu'au Sénégal, on tape sur les enfants. Vous voyez, donc, à nous, c'est très, très compliqué.
Absolument. Alors, Kadiatou, quand on vient aux États-Unis, on cherche à s'intégrer, ce qui est très normal. Mais on veut aussi montrer cette fierté de ses origines africaines. Comment équilibrer tout ça?
Très difficile, comme Idriss vient de le dire. C'est pas une chose facile. Et pour, en tout cas, les gens de ma génération, de la génération d'Idriss, peut-être la jeune génération.
Arzuma, qui est beaucoup plus jeune,
voilà,
pourra nous donner sa perspective.
Voilà, et peut-être, trouver les voies et moyens d'assimiler ces choses-là et de trouver le juste milieu pour le faire. Pour ma part aussi, je ne suis pas très jeune. Je ne peux pas dire aussi que j'ai l'âge de Idriss. Mais il n'y a pas une très grande différence entre l'éducation de Idriss et de moi. Et ce que je vois aujourd'hui, nous, même nos amis qui sont restés en Afrique, la manière dont ils éduquent les enfants, la manière dont la société, les sociétés dans lesquelles ces familles-là vivent, n'ont plus les mêmes repères.
Oui, mais effectivement, c'est trop demander aux gens de vivre comme en Afrique. C'est vrai qu'il faut garder sa culture, mais on est aux États-Unis et il faut aussi s'adapter. C'est justement cet équilibre-là.
Ce matin, je vous disais, Abdourahman, il est inimaginable en Afrique, donc je dis Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, qu'un enfant regarde son père les yeux dans les yeux et lui dire « Papa, ce que vous dites là, c'est pas vrai. » Si c'est à Bamako, ce sera une paire de claques tout de suite. Si c'est à Dakar, on va te dire « Sors de ma maison. » Ici, c'est dans les mœurs, c'est dans les traditions et il faut le tolérer. C'est-à-dire que tu ne peux pas lever la main sur ton gosse et tu ne peux même pas, en tant que père, dire à ton enfant « Tu n'as pas le droit de me dire que ce que je dis n'est pas vrai. » Donc, il y a ces petites différences-là qui sont fondamentales parce que les enfants ici, ils ont une relation de procuration avec nos pays d'origine, culturellement, mais ils sont d'abord américains avant d'être maliens.
Alors, Kadia, vos enfants parlent Bambara.
Je les ai amenés ici, la dernière avait 8 ans. Et les trois premiers, déjà, ils avaient celle qui est au milieu avait 15 ans. Et le premier avait il avait à peu près 20 ans. La deuxième avait 18 ans. Donc, déjà, on est venu avec une certaine base,
une éducation africaine.
Éducation africaine. Tout à fait différente. Mais, la plus jeune, qui a 8 ans, a totalement assimilé les valeurs américaines. Ça, il faut le dire. Je m'en vais vous citer.
C'est pas forcément une mauvaise chose.
Non, attendez. Je vais vous donner juste un petit exemple qui s'est passé chez moi il y a juste 4 jours. Elle a 24 ans maintenant. 23, 24 ans. Dans sa tête, au début, à 16 ans déjà, elle a eu le réflexe, elle est venue me voir en me disant, « Maman, je veux me couvrir. Je suis musulmane ?» J'ai dit oui. « Je veux me couvrir. Je prends le tchador. » J'ai dit, « Il n'y a pas de problème. » Et elle me pose la question, « Pourquoi toi, tu ne te couvres pas la tête ?» J'ai dit, « Non, si tu veux prendre ça. » L'éducation islamique, religieuse que j'ai reçue, ne me force à rien faire. Si tu veux le faire, fais-le. Elle a pris. Jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, ça lui a posé trop de problèmes, ça nous a posé trop de problèmes, on a quand même surmonté. Et là maintenant, elle est en train de sortir de ça, automatiquement, par elle-même. Et le papa est dérangé. Elle vient, elle s'habille à l'américaine, bien maquillée, avec d'autres cheveux sur la tête. On était là, les deux, avec mon mari, assis. Elle sort tranquillement, bien habillé comme ça, avec la clé de sa voiture. Good night, dad. Good night, mom. Le papa était là avec son chapelet. Écoute-moi bien.
Il a le chapelet en plus.
Il a le chapelet. Il a fait comme ça. Je l'ai regardé comme ça. Ça m'a pris le coup. Après, quand la fille est sortie, je lui ai dit, il faut faire attention. Sinon, tu prendras un mauvais coup ici. Il m'a dit, mais regarde là. Elle parle comme ça, sans rien, sans de ta dame. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bon, voilà.
Welcome
tu vois, pour illustrer
Welcome.
Ce que le débat, là, aujourd'hui, vous voyez.
Welcome to the US. Donc, je pense que...
Les parents n'ont même pas... On n'a même pas de pouvoir à agir.
Il faut lancer Lionel.
Non, Lionel, je l'entendais, je le voyais écouter religieusement. Vous aussi, vous avez des enfants qui ont grandi ici. Comment vous gérez cela? Déjà, la langue.
Ben, à la différence de Kadi, je crois que mon expérience un peu rejoint celle de Idriss. J'ai trois garçons qui sont tous nés ici. Donc, c'est des Américains d'abord, par naissance. Et je pense que les situations sont un peu similaires, sauf qu'à la différence, ma femme et moi, nous parlons français. Donc, on aurait voulu... que nos enfants puissent parler Kinyarwanda, qui est notre langue naturelle. Et on a tout fait pour les mettre dans un environnement où ils pouvaient parler la langue. Ça veut dire, mes enfants n'ont pas eu, je ne peux pas appeler ça une opportunité, mais on n'a pas eu...
cet environnement.
On n'a pas eu à les mettre dans les daycare pour qu'ils soient pris en charge par d'autres personnes. Ces enfants ont été pris en charge par leur grand-mère. Conséquemment, leur grand-mère qui ne parle pas français autant que nous, en général, c'était un environnement idéal pour qu'ils puissent apprendre le Kinyarwanda. Bon, je ne suis pas très, très, très bon dans le Kinyarwanda pour leur servir d'exemple, mais le fait qu'ils étaient quand même exposés à ça pendant toute leur enfance, et je pense qu'il y a eu... un manque à gagner de notre part, mais peut-être essayer de renforcer cet aspect culturel qui est quand même un aspect de valeur capitale pour qu'ils puissent apprendre cette langue-là. Et en fait, je crois qu'on a raté le coup, là. Ils sont grands maintenant et c'est un peu tard. Mais ils comprennent la langue, mais ils ne la parlent pas.
Absolument. On va poursuivre tout cela. Idriss, vous avez d'autres engagements. Je vais vous laisser conclure rapidement.
Non, je dis que c'est hyper compliqué et que donc moi, l'aîné maintenant, il parle couramment français. Et comme à la maison, on a imposé que les deux enfants parlent français. Mais le plus jeune, lui, quand il avait une histoire à raconter à son frère, il a commencé à la maison à imposer qu'il raconte son histoire en anglais à son frère, pas à nous. Donc, j'ai râlé plusieurs fois. En fin de compte, maintenant, c'est acquis. C'est-à-dire, mais quand ils sont en train de discuter du match de basket, du dunk de je ne sais pas qui... Ils le font en anglais.
C'est toujours en anglais. Ouais, ouais. La même chose ici.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Idriss, pour ces témoignages passionnants. Et donc, nous allons poursuivre la discussion avec mes deux invités, Kadiatou Traoré et Lionel Gaïma. Alors, Lionel, effectivement, c'est toujours difficile. Moi, mes enfants, j'ai fait l'option qu'on parle anglais et Wolof. Moi-même, je suis Peul, mais on ne peut pas apprendre trois langues. Ma femme est Wolof, et on a estimé que c'était plus facile. Donc, on a, comme pour reprendre l'expression d'Idriss, on a sacrifié le français et le Peul aussi. Mais voilà, mais la priorité, c'est leur intégration ici, parce qu'ils vivent, ils sont nés ici. Et il faut qu'on leur donne les moyens de réussir ici, non?
Bon, les moyens de réussir ici n'empêchent pas qu'on leur donne les valeurs quand même qui sont assez profondes, qui sont nos valeurs culturelles.
Absolument.
Et je pense que ça renforce même leur identité de savoir d'où ils viennent. Parce que, bon, c'est vrai, ils sont catégorisés comme des Africains américains, mais à la différence des Africains américains, ils savent d'où ils viennent. Ils ont une origine bien précise. Et chaque fois que j'ai une opportunité de les amener en Afrique, j'essaie de leur dire exactement, voilà, vous avez l'opportunité d'aller sur le continent qui a vu naître vos parents. Ça, c'est l'opportunité de pouvoir... comprendre d'où nous venons, essayer de prendre tout ce que vous pouvez. Comme exemple, je les avais amenés au Sénégal, par exemple, dans votre pays, à l'île des Gorées, pour qu'ils puissent comprendre exactement comment est-ce que les Noirs américains qui sont ici, qui ne savent pas d'où ils viennent, dans quelles conditions ils ont été amenés ici. Ce n'est pas leur cas, ils ont eu le privilège de naître ici, mais ça fait partie de l'histoire, en fait, de tous les Noirs américains qui sont ici, dans lequel ils font partie. Donc, ils doivent savoir exactement d'où ils viennent. Et je fais tout, en tout cas, si pas chaque année, chaque deux ans, de le ramener sur le continent pour qu'ils puissent s'imprégner de réalités culturelles, des valeurs, qui, en fait, jusque-là, si je me trompe pas, ils ont embrassé ça. Ils ont embrassé ça. Pas la langue. Ils sont fiers de leurs origines. Et je pense que sur ce point-là, ma femme et moi, on a quand même gagné des points. Mais la seule différence, c'est que vraiment, la langue, que ce soit la langue française ou le Kinyarwanda, qui est notre langue de naissance, ils ne les parlent pas, mais ils les comprennent. Ça veut dire que quand on parle en français, ils comprennent ce qu'on dit. Quand on parle en Kinyarwanda, ils comprennent ce qu'on dit. Mais le dialogue entre nous et les enfants se fait toujours en anglais. Bon, mon anglais n'est pas bon, mais ils parviennent à me comprendre quand même.
Croyez-moi, ouais. Il est bon. Kadiatou, ouais. Certains parents ici, effectivement, hésitent à parler plusieurs langues à leurs enfants parce qu'ils pensent que ça peut être un problème. Mais c'est pas évident. Les études prouvent que effectivement, les enfants peuvent assimiler plusieurs langues à la fois.
Absolument. Je suis psychologue de formation. L'enfant traverse une période qu'on appelle la période, ici, aux États-Unis, on dit le critical period. C'est de sa naissance, quand il commence à être machin, et jusqu'à à l'âge de 16 ans. Mm-hmm. Par là, 15 à 16 ans, ils ne fournissent pas d'efforts. Le cerveau ne fournit pas d'efforts. Surtout s'il s'agit d'apprentissage de langue. Le cerveau travaille par elle-même. L'enfant ne fournit pas d'efforts. Tout ce que tu fais devant l'enfant, c'est enregistré par le cerveau. Tout ce qui sort comme son est enregistré par le cerveau. Et il se met comme un magnétophone. Il ne fournit pas d'efforts. C'est pour cela qu'il est très facile pour les enfants de parler des langues sans nuance, sans accent. Quand un enfant est né ici, ou quand on amène... Ma fille, par exemple, quand elle te parle, on l'a amenée ici à 8 ans. Mmh. Elle n'a pas d'accent. Son anglais n'a pas d'accent. Et quand tu la vois, façon, tu ne peux pas imaginer. Moi, par exemple, si quelqu'un me voit automatiquement, même sans que je parle, la personne va savoir que je viens d'ailleurs. Je ne suis pas d'ici. Mmh. Mais elle, quand tu la vois, et quand elle parle devant toi, tu ne vois. C'est ça. Donc, c'est une erreur. C'est une erreur pour les parents d'imaginer que ça peut troubler l'enfant et tout. Ça dépend des conditions dans lesquelles tu peux mettre l'enfant. Mais je sais que quand tu le mets dedans, l'enfant peut commencer à parler.
Ça s'adapte plus facilement que nous.
Abdou, je peux peut-être ajouter, mais ce qu'elle dit, c'est très vrai. Moi, je viens de la région des Grands Lacs. Mm-hmm. Quand je dis Grands Lacs, souvent, je ne dis pas que je viens du Rwanda exclusivement. Je suis né là-bas, mais j'ai eu l'avantage de vivre au Burundi et au Congo. Donc, ces trois pays, en fait, j'appartiens à ces trois pays culturellement et au niveau linguistique. Donc, je parle toutes les langues de cette région. Et le fait d'avoir été exposé à ça pendant que j'étais tout petit, comme Kadi venait de le dire, on absorbe toutes ces langues sans beaucoup d'efforts. Je me rappelle, avant que je commence mon école primaire, j'étais exposé à toutes ces langues, je les parlais. Bien sûr, à la maison, il y avait une préférence. Les parents ne voulaient pas qu'on parle d'autres langues de dehors, à part notre langue maternelle. Mais le fait d'être exposé, on emmagasine tout ça. Voilà. Mais malheureusement, ici, j'ai remarqué que nos enfants, à moins vraiment que les parents y mettent un peu de rigueur, souvent, on rate le coach.
C'est une petite parenthèse. Je pense que ici, la société est faite de telle manière que quand tu amènes les enfants à l'école et qu'ils essaient de sortir de leur culture, il y a un système, les enfants se taquinent et ils mettent, comme on dit, le bowling.
Bowling.
En français, c'est quoi?
En fait, c'est pratiquement ils sont victimes de moqueries.
De moqueries. Mm-hmm. On met la moquerie sur nos enfants et qui les dérange. Et automatiquement, tu vois, ça crée une frustration chez les enfants et des fois, ils sont agressifs. À l'école, moi j'ai travaillé avec l'école ici quand c'est le premier boulot pratiquement que je faisais quand je suis arrivé ici. Pendant mon intégration, j'étais à l'université et tout. Je travaillais avec le système scolaire de Mangomeri Kanti, donc je faisais des traductions pour les parents francophones les immigrants francophones qui viennent avec les enfants et qui mettaient les enfants sur le record des enfants. Je participais. Tu vois,
vous avez noté beaucoup de problèmes pour certains.
Ah oui. Et donc voilà, il y a ça aussi. Donc quand les parents ont conscience de cela seulement, donc on laisse l'enfant.
D'accord. Voilà. Arzouma, vous êtes beaucoup plus jeune que mes autres invités ici, mais vous avez aussi une expérience à partager. Vous avez une famille. Comment vous gérez ce dilemme, leur rendre cette fierté africaine, mais leur donner toutes les chances pour réussir dans ce pays, bien s'intégrer?
Alors, je pense que de façon simple, il faut rendre les langues cool. Parce qu'en fait, avec les enfants, ils sont très tendance. Ils vont tout de suite avec ce qui est à la mode. Donc, si votre langue n'est pas à la mode, si c'est pas quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour être fiers, pour être, pour frimer, ou bien même pour dire à leurs camarades, moi j'ai ça, mais toi tu n'as pas ça, enfin, dans un esprit tout à fait fair play. Ça va être difficile. Un exemple, chez moi, je me rappelle une année, on l'a essayé pendant au moins 2 semaines. Chez nous, on parle français, moré, djoula et anglais. Et donc, on a essayé de répartir en fait chaque jour de la semaine avec une langue. Donc le lundi, tout le monde parle anglais, sans exception. Le mardi, quand tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est français. Le mercredi, c'est djoula, et le jeudi, c'est moré. Et le vendredi, c'est Voilà ce qui s'est passé. Parce qu'au fur et à mesure, ça a forcé. Pendant ces 2 semaines, je me suis trouvé en train de me forcer à parler. Voilà. Parce que, quand l'environnement, en fait, c'est une question d'environnement.
Absolument.
Si l'environnement autour de toi est conscient et formaté de sorte que c'est que cette langue qu'on parle, inconsciemment, le cerveau se met aussi à retrouver les mots, à trouver les réflexes. Et ça, je pense que c'était une expérience assez intéressante.
J'aimerais bien lire quelques commentaires de nos auditeurs sur Facebook et je vais vous demander peut-être de me dire ce qui vous a le plus marqué. Blaise Ali dit que l'homme, une fois dans un nouveau milieu, a toujours des difficultés à s'intégrer, mais au fur et à mesure, il s'intègre. Il est aussi difficile à un homme d'abandonner sa culture d'origine, qu'il soit né dans son milieu d'origine ou non. Et pour conclure, la culture, je pense, c'est dans le sang de l'homme, pas besoin de s'en débarrasser. Thomas Sankara à Dakar, en tout cas c'est son nom sur Facebook. On peut réussir cet équilibre quand le pays accueillant n'impose pas aux Africains une politique d'aliénation et de déracinement, autrement dit, en permettant aux immigrés de vivre leur culture sans condition. Ok. Et Eloge Kiario depuis Kolwezi en RDC, il dit, il suffit juste de faire ce qu'il faut au moment où il faut, car nos racines sont déjà dans notre ADN. Kevin dit que le milieu influence la vie. Pour réussir, il ne faut pas être complexé. Aussi, il faut apprendre à ses enfants une éducation de ses origines. Baudelaire, je vais terminer avec lui. Je pense que garder sa culture et réussir l'intégration peut paraître difficile, mais pas impossible. Qu'est-ce que vous avez le plus?
Moi, je vais réagir sur Thomas Sankara parce que ce qu'il dit, à la différence, nous, nous sommes venus dans ce pays adultes. Donc, on avait déjà nos valeurs. Donc, en ayant ces valeurs-là, on a quand même cette chance-là de pouvoir les transmettre à nos enfants qui sont nés ici. Conséquemment, quand on envoie des enfants trop jeunes ici, par exemple, qui n'ont pas ce cadre familial ou bien de cadre qui leur permettent de se baigner dans cette culture, ils peuvent être perdus. Donc, ils n'ont pas cette base-là de référence.
Très vite. Quelques secondes.
Juste quelques secondes. Je pense que pour moi, c'est une question de volonté avant tout. Parce que de la même manière que les parents doivent s'imposer cette rigueur-là et cette discipline, parce que c'est difficile quand tu es dans un autre pays de parler une langue et puis de parler une autre langue, de faire ce switch. Donc, il faut une volonté d'abord des parents.
Moi, je pense, je réagis par rapport à ce que Kevin Kanyenda a dit. Le milieu influence la vie. Pour réussir, il ne faut pas être complexé. et aussi apprendre à ses enfants une éducation de ses origines. C'est très, très significatif pour moi et plein de sens. Et je pense qu'il faut laisser ce complexe-là parce que généralement, c'est ce qui arrive aux parents. Voilà. Voilà.
Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Merci à Kadiatou, Lionel Arzuma et également Idriss Fall qui était là un peu plus tôt. C'était l'Amérique et vous, vous pouvez continuer la discussion sur notre page Facebook. Dans quelques instants, une autre édition du Monde aujourd'hui avec Ekia Badou. Au revoir.